Très bien, on va commencer. Bienvenue à cette série de cours sur l'amplification et la rétroaction dans les circuits quantiques. Donc, la fois d'avant, j'ai introduit ce sujet en posant les questions, c'est-à-dire comment construire un amplificateur qui fonctionne à la limite quantique, c'est-à-dire qu'il effectue une mesure avec le minimum de bruit compatible avec le principe d'incertitude d'Heisenberg. Donc le but de ces leçons est de comprendre comment il est possible de réaliser des expériences sur les circuits quantiques pour lesquels le bruit est en quelque sorte le minimum imposé par la mécanique quantique. C'est un régime tout à fait nouveau. Jusqu'à présent, les mesures sont entachées d'erreurs qui sont dues au bruit de l'appareillage. On va, dans cette série de leçons, traiter des situations où le bruit ne sera en quelque sorte dû qu'au principe quantique. Aujourd'hui, je vais introduire les outils. On va modéliser deux aspects importants des amplificateurs. D'une part, le fait qu'il s'agisse de systèmes hors équilibre, ouverts, et d'autre part, le fait que ça soit des systèmes non linéaires. Donc, le but de ces deux leçons est d'indiquer comment on va combiner la non-linéarité et l'aspect hors équilibre. La fois prochaine, on utilisera ces outils pour calculer les performances d'un amplificateur et en particulier montrer qu'on peut augmenter sa bande passante et son gain pour atteindre des valeurs raisonnables pour les expériences tout en restant à la limite quantique. Parce que la grande question qui se pose, c'est de savoir si cette limite quantique est uniquement théorique, s'il est possible de l'atteindre en théorie avec des paramètres extrêmes, ou si elle peut s'appliquer à des expériences réelles. J'introduirai la question de la directionnalité des amplificateurs, qui est très importante. On veut que l'amplificateur se comporte comme une valve, et savoir s'il est possible de faire ces mesures à la limite quantique tout en maintenant cet aspect très important de valve de l'amplificateur va constituer le sujet de la leçon numéro 4. Dans les deux dernières leçons, je passerai aux applications proprement dites des amplificateurs pour une mesure. J'établirai le lien entre la mesure, le processus de mesure et le processus d'amplification, et je traiterai une forme de rétroaction quantique qui est le maintien des oscillations de Rabi. Comment réaliser ce nouveau phénomène qui a été prédit par Korotkov il y a quelques années, qui est le maintien pendant un temps infini des oscillations de Rabi. C'est un exemple simple, bien adapté au circuit quantique du processus de contre-réaction dans le régime quantique. Une remarque importante, il n'y aura pas de leçon la semaine prochaine, ni de séminaire. Le cours reprend la semaine suivante, le 31 mai. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jan van Ruytenbeeck de Leiden, qui va nous parler de transport quantique dans les molécules uniques. C'est tout à fait le genre de système pour lequel ces amplificateurs qui sont développés actuellement pourraient apporter, pourraient améliorer les expériences de manière notable. Et le reste des séminaires de cette année porteront plus particulièrement sur le sujet du cours le 31 mai, donc dans 15 jours, nous recevrons Irfan Siddiqui qui a réalisé la première expérience où, avec un amplificateur supraconducteur du type que je vais décrire, où les sauts quantiques d'un atome supraconducteur ont été observés. C'est un régime justement qui s'obtient lorsque l'amplificateur est suffisamment bon, lorsque l'amplificateur peut justement atteindre cette limite quantique. Avant de passer à cette combinaison de la non-linéarité des conditions hors équilibre, je vais introduire très brièvement ce que, disons, c'est rappeler ce que c'est que ces circuits quantiques et surtout introduire la notion de mode du circuit qui va nous servir par la suite. Alors, tout le monde est familier avec ce qu'est un circuit électrique linéaire. C'est un circuit qui ne contient que des inductances et que des capacités. On parle ici, bien sûr, de système non dissipatif. La dissipation ne fait pas bon ménage avec la mécanique quantique. Donc, on suppose qu'il n'y a absolument pas de résistance dans le circuit ou qu'elles sont très minimes, que le facteur de qualité des oscillateurs ici est excellent. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, le nombre de modes du circuit est donné par le nombre de paires de capacités et d'inductances qui sont indépendantes. Donc ici, on voit assez facilement que ce circuit contient trois modes électromagnétiques. Et quantiquement, chacun de ces modes va être quantifié et on choisit, les modes tels que leur fréquence est différente. Donc on va avoir trois échelles, une pour le mode A, une pour le mode B et une pour le mode C. Donc les états quantiques du circuit seront décrits en donnant le nombre de photons dans chacun de ces modes. Ça sera la base des états quantiques du circuit. On peut donc, dans cette base de modes, écrire l'Hamiltonien. L'Hamiltonien va donc être donné par le nombre d'excitations dans chacun des modes. Et j'utilise dans cette leçon et les suivantes une notation double. On utilisera une lettre comme A, B, C pour représenter un mode où, lorsque le nombre de modes devient plus grand que 2 ou 3, cette notation avec un index ici de mode. Donc, les amplitudes de mode sont traitées ici quantiquement, bien que parfois, on va le voir, pour le cas d'un système strictement linéaire, que l'on considère cette amplitude comme un opérateur ou comme un nombre réel ne fait pas véritablement de différence, puisque vous savez qu'un système linéaire est toujours dans la limite du principe de correspondance, c'est-à-dire que la valeur moyenne d'un opérateur est toujours égale à sa valeur classique pour un système linéaire. En pratique, ces circuits avec des éléments discrets que j'ai représentés dans le transparent précédent est réalisé on chip. Et voici un exemple de résonateur que nous utilisons dans notre laboratoire. Donc, c'est une piste de saphir. Le résonateur qui a une fréquence de quelques gigahertz est assez compact. Il est plus court, environ 10 fois plus petit que la longueur d'onde. Donc on reconnaît ici une capacité interdigitée et une inductance qui est réalisée sous forme de méandre. Et le couplage entre ce résonateur et le circuit de mesure est réalisé avec cette ligne ici, une ligne coplanaire ce résonateur est entouré d'un plan de masse pour éviter les pertes par radiation. Voilà un exemple de résonateur supraconducteur de très forte qualité, puisque ici on peut atteindre un coefficient de qualité de 500 000 pour ce genre de résonateur. La façon dont on... Alors, ce qui est intéressant, ce qui va être important pour la suite, c'est de faire le lien entre l'amplitude d'un mode et les courants et les tensions qui sont développées dans le circuit. Donc, toutes les fois où on fait de la mécanique quantique, on préfère parler de position et d'impulsion. Sur le plan électromagnétique, l'équivalent de la position, c'est l'intégrale de la tension, et l'impulsion, c'est la charge et c'est l'intégrale du courant. Et par exemple, pour ce circuit, il est commode ici, vu sa topologie, d'introduire les courants de maille, et donc les impulsions du circuit seront les charges de maille ici, Q1, Q2 et Q3. L'hamiltonien du circuit s'écrit très simplement en exprimant à la fois les énergies des inductances et des capacitances en fonction de ces variables de maille. Voilà l'hamiltonien. Et à partir de cet hamiltonien, bien sûr, on peut déduire toutes les propriétés du circuit. Par la suite, il sera intéressant de considérer la matrice des capacités inverses, qui est la double dérivée de l'hamiltonien par rapport aux charges. Et il y a aussi la matrice des inverses des inductances, qui est la dérivée seconde de l'hamiltonien par rapport au flux. Et là, j'ai écrit les équations d'Hamilton pour le circuit. C'est ces équations qui peuvent se comprendre à la fois classiquement et quantiquement qui déterminent la dynamique. Et je rappelle très brièvement pourquoi la charge et le flux sont conjugués, sont des variables conjuguées dans ce circuit. Si on regarde le circuit plutôt du point de vue des champs plutôt que du point de vue des charges, on peut écrire l'hamiltonien en fonction des champs et introduire le potentiel vecteur. Et on voit que dans le Lagrangien, le potentiel vecteur et sa dérivée ici sont des variables en fait conjuguées. Et donc, on peut dire en quelque sorte que le flux dans ce circuit et la charge donc dans la capacité sont en quelque sorte des espèces de variables condensées. Le flux, c'est en quelque sorte l'intégrale du potentiel vecteur, une sorte d'intégrale du potentiel vecteur. Et la charge ici est reliée à la dérivée par rapport au temps du potentiel vecteur. La charge, c'est le champ électrique et son équivalent ici dans les circuits discrets, ça sera la charge sur la capacité. Voilà très, très brièvement comment on arrive à cette idée que la charge et le flux sont des grandeurs conjuguées qui ne commutent pas quantiquement. Donc je réécris les équations du circuit sous forme matricielle. Ici, les Q et Φ sont maintenant des vecteurs, colonnes, qui représentent la charge et le flux dans les mailles. Et on trouve très facilement les fréquences propres du circuit en diagonalisant cette matrice ici, qui est l'équivalent... si on n'avait qu'un seul mode, on aurait l'inverse de la racine carrée du produit de la self et de la capacité. Et on établit très facilement la correspondance entre les flux de maille et les charges de maille et les opérateurs de création et d'annihilation en introduisant la matrice d'impédance. L'impédance des modes permet d'établir, c'est le lien qui va nous permettre de passer des opérateurs d'amplitude de photons aux quantités auxquelles on est habitué électriquement, comme le courant et la tension. Pour vous donner, il est important d'avoir les ordres de grandeur en tête. Donc, le genre de circuit que je vous ai montré a une fréquence de résonance, donc, comme j'ai dit, aux alentours de 10 GHz. Là, je vais résonner uniquement en ordre de grandeur. Son impédance est de l'ordre d'une centaine d'ohms. Ça varie plus. En fait, expérimentalement, plus l'impédance est élevée, plus, semble-t-il, le facteur de qualité peut être bon sur ces résonateurs planaires. Et avec ces nombres, 10 GHz et 100 ohms, dans ces formules, eh bien, vous arrivez à l'idée que pour un photon, eh bien, vous allez avoir une tension sur les capacités de l'ordre du microvolt et le courant dans les inductances va être de l'ordre de 10 nanoampères. Vous voyez que ce qui est tout à fait surprenant, c'est que à ces fréquences micro-ondes, eh bien, finalement, les tensions et les courants correspondant à un photon sont des grandeurs assez élevées. Ces valeurs, c'est des valeurs qui ne sont pas particulièrement faibles quand on parle de mesures faites dans le continu avec un lock-in, par exemple, en physique mésoscopique. Donc, un photon, c'est finalement électriquement, pour ces circuits, quelque chose d'assez gros. Le cœur du processus d'amplification, le voici. Donc, pour que ce circuit amplifie, il faut rajouter dans l'hamiltonien des termes non linéaires, c'est-à-dire des termes qui sont de degrés plus élevés que 2 dans les opérateurs A et A croix. Et l'exemple, le oui. Merci beaucoup pour cette question. C'est très important de faire comme Sophie, de m'interrompre s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Je le dis un peu à chaque fois, mais c'est vraiment le public qui fait ce cours. C'est pas vraiment. Le professeur prépare, mais. Finalement, c'est le public qui rend le cours réel. Bon, alors, à partir de la matrice des capacités et des inductances, finalement, on fait deux matrices. Il y a la matrice des fréquences, hein, et puis, finalement, il y a une autre combinaison des capacités et des inductances, c'est... Il y a le rapport L sur C pour un mode, ça pour, sous forme matricielle, ça donne ce Z. Et donc, chaque mode propre du circuit va correspondre à une impédance, hein, qui est le rapport, la racine carrée du rapport entre l'inductance et la capacitance. Et, et avec H bar et Z, c'est ce qui permet d'établir la correspondance entre. Les A et les phi. Alors, ce que j'ai fait pour arriver à ça, en fait, je prends la valeur moyenne pour un photon du carré de phi et je prends sa racine. Donc, voilà, l'ordre de grandeur, c'est un signal donc, qui va contenir en moyenne n photons va avoir une amplitude qui sera racine de n fois cette tension. Voilà comment ça marche. Donc, pour amplifier... Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sophie, parce que... Oui, il y a une combinaison de. On peut aussi. Les impédances contiennent aussi les mêmes ingrédients que les fréquences. Hein. Mais il faut, si tu veux, une façon de... Je pense que... Non, mais je vais... C'est un point important, ça. Bon, j'aimerais bien pouvoir... Normalement, je devrais pouvoir... Ah, non. Non. Non, c'est pas... Non, c'est pas... Tant pis, je contrôle pas bien la lumière ici, mais... Je pense que, Sophie, ce que tu veux dire, c'est que... Donc... On peut dire que, par exemple, pour un photon, on va... établir la correspondance entre l'énergie d'un photon et l'énergie d'un photon va être finalement répartie dans un système linéaire comme ça, moitié dans l'inductance et moitié dans la capacité. Donc je peux écrire que ça, l'énergie du photon, ça va être phi carré sur L. Donc, cette relation ici, donc je peux l'écrire aussi comme ceci, hein, c'est la fréquence, c'est 1 sur racine de LC. Et donc, on voit que phi carré en valeur moyenne, ça va être donné par... racine de h bar sur fois la racine de L sur C qui est l'impédance. Ça c'est donc en fait on voit que le flux est relié à l'impédance. Alors je vois qu'effectivement, il manque une racine plutôt quatrième ici. C'est... Non, c'est bien racine de Z. Donc ce sera, pardon, ça sera la racine... Ça sera, le flux sera donné par la racine quatrième du rapport L sur C. Non, le transparent est bon. Enfin, voilà le... voilà le lien entre les amplitudes des signaux électriques et le produit entre de H-bar et de l'impédance pour le flux et le produit de H-bar et de l'admittance pour la charge. C'est absolument crucial, cette relation, puisque à tout moment, il faut être capable de comprendre le lien entre le langage des photons et le langage, finalement, des électrons. On est plus à l'aise dans le langage des électrons en parlant de tension et de courant. C'est plus parlant, mais il faut savoir faire l'aller-retour avec le langage des photons. Donc, ces correspondances sont absolument cruciales. Donc, pour avoir de l'amplification, il faut introduire dans l'hamiltonien des termes non linéaires. Et la non-linéarité la plus simple, la non-linéarité essentielle qui permet de comprendre l'amplification, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle un mélange à trois ondes. On a simplement un produit de trois opérateurs de création et d'annihilation. En fait, ce processus est très simple. Il représente finalement la conversion d'un photon C par exemple, en deux photons, en quelque sorte le photon se coupe en deux et produit un photon A et un photon B. Là, je me place quand même dans une approche où ce mélange à trois ondes est perturbatif. Si ce coefficient G3 qui caractérise la force de la non-linéarité était trop fort, on ne pourrait pas parler de, pour commencer, de mode ABC. Mais dans, quand G3 est inférieur très nettement aux fréquences de ces modes, enfin H bar G3, ici devrait y avoir un H bar, ici dans le, dans, en face des fréquences, eh bien, cette vision du photon qui se coupe en deux est tout à fait valable. Le processus d'amplification peut se comprendre comme en fait la création d'une inversion de population. Imaginons que ce système satisfasse à cette condition de résonance, c'est-à-dire que la fréquence du mode C soit égale à la fréquence du mode A plus la fréquence du mode B. Ce processus de mélange à trois ondes peut être résonant. Et donc, avec un signal de pompe qui va, disons, créer, qui va effectuer cette transition ici et donc créer des photons C, on va pouvoir alimenter, on va mettre le système hors équilibre et on va créer ces paires de photons A, B et B. Et si l'on arrive à se débarrasser d'un des photons, mettons ici par exemple le photon rouge, le photon A, donc il faut de la dissipation. On va voir que c'est important, un amplificateur ne peut pas fonctionner sans dissiper. Eh bien à ce moment-là, on aura créé une inversion de population pour le photon B. Et donc cette inversion de population, par émission stimulée, va pouvoir prendre les photons B qui arrivent du signal et les multiplier. Et c'est finalement la base du processus d'amplification. Et vous voyez, si vous connaissez la fraction dont fonctionne un laser, c'est exactement similaire. On peut dire qu'un amplificateur, c'est simplement un laser qui fonctionne sous le seuil d'oscillation. Un laser fonctionne lorsque cette transition du signal est elle-même envoyée dans un résonateur et les photons amplifiés sont recyclés et sont suffisamment présents dans le système pour que cette émission ici des photons du signal se fasse de manière collective. Mais avant le seuil d'oscillation spontanée, un laser est un amplificateur et finalement, ce que l'on va réaliser dans nos expériences, c'est une espèce de laser micro-ondes. Le laser micro-ondes, le MASER, n'a pas beaucoup d'intérêt. Il y a de très bonnes sources micro-ondes qui fonctionnent sans MASER. Et le but ici va être plutôt d'obtenir ces MASER et de les faire fonctionner sous le seuil. Et c'est là où ils vont pouvoir amplifier des signaux micro-ondes en rajoutant un minimum de bruit. Voilà, ça c'est le... Disons, oui. Alors, en fait, le rôle de l'idler, la fréquence, le signal image et le signal sont complètement interchangeables. On peut utiliser l'un de ces types, deux types de modes pour amplifier. Ce qui est très important, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas avoir amplification dans un de ces modes rouge et bleu si on n'offre pas de la dissipation au mode image. Donc l'amplificateur, c'est un peu un système qui mélange le froid et le chaud. En quelque sorte, il faut apporter de l'énergie sous forme de la pompe, il faut créer ces paires de photons, et en même temps, il faut permettre aux photons supplémentaires ici d'être évacués. Donc c'est finalement un système, un amplificateur, c'est un système qui est à la fois pompé et dissipatif, c'est un système qui est hors équilibre, de manière stationnaire, et donc tout le traitement de l'amplification va se faire en combinant deux ingrédients. Et dans la suite de cette leçon, je vais traiter chacun de ces ingrédients de façon séparée et dans la fois prochaine, je vais les combiner. Voilà. Alors, je vais rappeler pour le traitement des systèmes hors équilibre un certain nombre d'idées que j'avais développées dans ce cours en 2008. Donc, c'est l'approche entrée-sortie des systèmes dissipatifs. Alors, d'abord, je vais définir ce que c'est qu'un circuit dissipatif ouvert. Donc, je pars du circuit sans dissipation, qui ne contient que des selfs et des capacités. Et j'introduis en quelque sorte dans ce système trois types d'éléments. Il y a des résistances qui vont créer de la dissipation. Ces résistances, éventuellement, peuvent être non pas à température nulle, mais elles peuvent être chaudes. Il faut pouvoir, traiter ce cas. Il va y avoir des sources ici, par exemple des sources de tension et des sources de courant. Et il va y avoir des appareils de mesure qui vont extraire l'information. Alors, en ce qui concerne le traitement du circuit électrique, un appareil de mesure comme un voltmètre, c'est juste une autre résistance. L'évacuation, disons la prise d'information sur le circuit, vis-à-vis du circuit, c'est exactement la même chose qu'une résistance. L'information qu'elle s'enfuit sous forme de chaleur qu'on ne récupère pas ou sous forme de signal vis-à-vis du circuit, c'est strictement la même chose. Et donc on arrive à ce point de vue très élégant où finalement un circuit hors équilibre, c'est un circuit qui est couplé à des lignes de transmission. Ces lignes de transmission, elles jouent un triple rôle. Vu du circuit, ces lignes se comportent comme des résistances. Ces lignes de transition sont des lignes semi-infinies. Elles sont de longueur infinie ici. Donc une ligne de transmission, un câble coaxial infini, vu d'une extrémité, c'est comme une résistance. C'est comme une résistance dont la valeur est l'impédance caractéristique de la ligne. Donc la fonction de résistance est assurée. La fonction de générateur est aussi assurée par les ondes qui se propagent depuis l'infini et qui arrivent dans le circuit. Donc ces ondes qui vont finalement alimenter le circuit en énergie. Et finalement, la prise d'information, enfin l'extraction d'information du circuit et la dissipation se fait par les ondes qui quittent le circuit, qui sont rayonnées par le circuit. Donc les trois fonctions, du système hors équilibre sont parfaitement modélisées par ces lignes de transmission semi-infinies. Et donc, la théorie, le traitement entrée-sortie du circuit hors équilibre va consister à finalement comprendre comment se fait la diffusion de ces ondes, le scattering de ces ondes. Alors, c'était extrêmement. C'est quelque chose, c'est un traitement qui surprend beaucoup au départ, parce que finalement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'un circuit avec des résistances qui perdent de l'énergie peut se voir comme un système parfaitement élastique. Donc, vous voyez ici, vous n'avez que des selfs et des capacités qui diffusent les ondes. Donc tout le processus, de dissipatif ici est remplacé par un processus de diffusion. C'est un point de vue équivalent et dont il n'est pas évident a priori qui marche. Donc ça demande méditation. Là je détaille un peu cette idée. Donc sur un résonateur, on va prendre un circuit LC, on imagine qu'il est connecté à une résistance et une source de tension, dépendante du temps. Et donc, la tension ici aux bornes du générateur, ça va être une combinaison, en fait, de la tension de la source et de la chute de tension dans la résistance interne du générateur. Alors, plutôt que de considérer une source de tension, on aurait pu considérer une source de courant, ici, avec en parallèle la même résistance interne du générateur. Donc, c'est par le théorème de Thévenin, vu ces deux traitements du générateur sont identiques. Il suffit d'établir cette correspondance entre la source de tension et la source de courant. Maintenant, comment ça marche? Comment finalement ces deux modèles finalement sont équivalents à ce troisième modèle, plus commode? Ça, c'est une idée qui était inventée par Nyquist. Et finalement, plutôt que de parler de générateur de tension avec une résistance interne et générateur de courant avec une résistance interne, on peut considérer cette ligne de transmission et la correspondance est la suivante. Donc, les ondes entrantes, l'amplitude des ondes entrantes sont reliées à l'amplitude du générateur de tension ou du générateur de courant par ces formules. Donc, il suffit de prendre la résistance, l'impédance caractéristique de la ligne, de prendre sa racine carrée et de diviser par la tension par cette racine carrée pour avoir la correspondance entre l'amplitude de l'onde entrante et l'amplitude du générateur de tension qu'on voulait modéliser. Et finalement, on a le même type, de la même façon, on peut relier l'onde sortante à finalement la différence entre la tension aux bandes du circuit et l'amplitude de l'onde entrante. Voilà donc comment on va procéder lorsqu'on va faire un calcul d'un circuit hors équilibre. L'hamiltonien du circuit va nous donner une relation entre le courant ici amené par le générateur constitué par la ligne et la tension. Cette partie-là est purement hamiltonienne. Et en général, on va avoir une relation donc fonctionnelle entre le courant et la tension aux bandes du circuit. Et par exemple, voilà un exemple de relation fonctionnelle pour ce circuit LC. On voit que cette relation fonctionnelle fait intervenir des dérivés. En général, il va y avoir des dérivés et des intégrales, mais peu importe. Dans cette relation fonctionnelle, on va remplacer le courant et la tension par leur expression en fonction de la somme et de la différence entre les ondes entrantes et les ondes sortantes. Et vous voyez qu'en effectuant cette substitution, dans cette relation entre le courant et la tension du circuit, eh bien, on va obtenir à la fin une relation fonctionnelle entre les amplitudes entrantes et les amplitudes sortantes. Et là, je l'ai fait pour ce circuit LC. Et vous voyez, j'ai une combinaison des dérivés des ondes sortantes à gauche et une combinaison des amplitudes et de leurs dérivés des ondes entrantes à droite. Et donc, j'ai bien réalisé mon programme. Ce circuit qui est dissipatif, vu d'un traitement ordinaire, maintenant apparaît juste comme un diffuseur. J'ai calculé la relation cette relation ici est la relation entrée-sortie du circuit. On peut l'obtenir sous forme algébrique en passant en transformée de Fourier. Donc là, j'introduis la transformée de Fourier des amplitudes des ondes entrantes et des ondes sortantes. Vous remarquerez que j'utilise une convention dans laquelle j'ai 1 sur racine de 2 pi devant la transformée de Fourier, ce qui permet de simplifier certaines formules et d'en compliquer d'autres. En introduisant la transformée de Fourier, je peux obtenir sous forme algébrique la relation entre l'amplitude de sortie et l'amplitude d'entrée. Et ici, je vois que j'ai une fraction rationnelle qui fait intervenir l'admittance réduite du circuit LC. Là, vous reconnaîtrez l'admittance du circuit. C'est ce que j'ai un peu promis, j'avais promis, c'est quelque chose que vous pourriez obtenir directement de l'Hamiltonien du circuit. Cette admittance, vous la multipliez par la résistance de la ligne et ça vous donne cette admittance réduite. Il y a un paramètre très important qui intervient ici, c'est ce facteur gamma, qui est le taux de, disons, de relaxation, le taux d'amortissement du circuit, et qui est ici simplement 1 sur racine de RC. Et en général, ce genre d'expression est assez compliqué, mais peut se simplifier grandement lorsqu'on fait l'approximation d'onde tournante ici, RWA, dans laquelle finalement on développe l'admittance au voisinage d'un zéro qui correspond à la résonance du circuit. Et avec cette approximation qui est valable quand le facteur de qualité des résonateurs est grand, ce qui en général sera toujours le cas, eh bien, on peut avoir une expression simplifiée de cette relation entrée sortie. On voit que eh bien, ici, il va s'agir simplement d'un déphasage. Ce facteur, d'ailleurs, on peut démontrer qu'il est toujours de module unité. Quand vous avez un mode qui rentre dans un circuit, le circuit étant purement dispersif, la seule opération qu'il peut effectuer sur l'onde, c'est juste un déphasage. Et là, j'ai représenté le déphasage de l'onde sortante en fonction de l'onde entrante. Il y a un déphasage de 2π à la résonance. Et en quelque sorte, ce facteur gamma, cette fréquence d'amortissement du circuit, ça va être l'étendue en fréquence sur laquelle se fait ce saut de phase de 2π. Donc, plus le facteur de qualité du circuit sera grand, plus ce saut de phase sera brutal. Alors, là, j'introduis une idée clé qui est très importante, qui va beaucoup nous servir par la suite. C'est finalement, dans cette approche entrée-sortie, pour une onde entrante communiquant avec un seul mode, finalement, il n'y a qu'une seule quantité qui est vraiment importante, c'est ce taux d'amortissement. En quelque sorte, ce facteur gamma, qui est une combinaison entre la résistance de l'environnement et l'admittance du résonateur, donc vous voyez ce produit d'une résistance par une admittance est sans dimension, et pour obtenir gamma, il faut multiplier par la fréquence du résonateur, donc cette combinaison de la fréquence du résonateur et de ce produit de la résistance de l'environnement fois l'admittance du mode, qui est l'inverse de son impédance, là, que j'ai discuté tout à l'heure, eh bien, ce facteur d'amortissement dans la relation entrée-sortie, on peut le voir comme un taux de résidence, un temps de résidence du photon. Ça c'est très... C'est très puissant comme idée. Donc, plutôt que de dire « Oh, ce circuit est dissipatif, il perd son énergie avec un taux gamma », c'est une approche ça, plutôt négative du processus. Hein. On voit ce processus d'amortissement comme une perte. Ici, dans cette approche entrée-sortie, ce n'est pas du tout ça. C'est un photon voyage le long de sa ligne, il arrive dans une espèce d'hôtel. Ici, il y reste un temps qui est inverse de gamma, et après, il repart. C'est beaucoup plus une histoire beaucoup moins triste, en quelque sorte. Le photon ne meurt pas du tout dans cette idée. Il reste un certain temps dans le circuit avant de repartir. Donc, de voir les choses sous cet angle, ça va énormément aider la façon dont on pense à l'amplification. Alors, d'une manière générale, là, j'ai fait... Oui.
Comment gamma est relié à la dissipation ?
Alors, la dissipation qu'on aurait habituellement, cette ligne de transmission est caractérisée par, finalement, une quantité qui a la dimension d'une résistance. l'impédance caractéristique de la ligne, finalement, ici, joue le rôle de la résistance. Donc, dans le traitement habituel, cette impédance de la ligne serait la résistance, correspond à la résistance qu'on met dans le circuit. Ici, cette résistance ne joue pas en quelque chose un rôle très différent. Elle se combine avec l'admittance du circuit, qui est donc ici on a deux. Cette résistance est l'impédance caractéristique de la ligne, qui est un concept purement non dissipatif. On multiplie par l'admittance du mode, qui est aussi complètement non dissipatif. Il n'y a que des L et des C là-dedans. On obtient une combinaison sans dimension que l'on multiplie par la fréquence, et ça donne une quantité qui a la dimension d'une fréquence, mais qu'on doit concevoir comme l'inverse d'un temps de résidence. Le photon est stocké un certain temps, ou plus exactement, le photon qui existe sous forme d'une onde progressive, ici, est converti pendant un certain temps en une onde stationnaire. Il reste dans le circuit, présent comme onde stationnaire pendant un temps qui est l'inverse de gamma, et il repart. Donc là, le temps caractéristique d'amortissement, c'est plutôt comme un temps de résidence ou d'état du photon sous une autre forme. Exactement. Plus le système est dissipatif, exactement, plus le temps de résidence est court. Plus son état sous forme d'onde stationnaire sera bref. C'est un point de vue très, très différent. Donc un système, lui, au contraire, peu dissipatif, c'est un système dans lequel cette histoire du photon, là, sous forme, ayant transmuté sous forme, disons, d'onde stationnaire, durera beaucoup plus longtemps. Si vous voulez, le processus qui consiste à charger, à exciter un circuit et de le voir se désexciter, et donc d'assister à un processus dissipatif, c'est la moitié de ce processus de diffusion. Si ce processus de diffusion le coupe en deux, on le surprend au moment où le photon est entré dans la cavité, on le regarde à ce moment-là, on aura effectivement l'impression que le circuit perd son énergie. En fait, tout ce qui s'est passé, c'est qu'elle existe momentanément sous une autre forme. Bon. Alors, on généralise cette idée à plusieurs ports. Vous avez vu qu'un amplificateur va contenir au moins trois ports. Il va y avoir un port Idler, un port signal, un port pompe. Donc, il faut être capable, d'une manière générale, de traiter une boîte, un circuit, non dissipatif, et avec un certain nombre d'entrées et de sorties. Et c'est ce que fait cette matrice S. Et là, dans un système linéaire, tous les coefficients de cette matrice de diffusion qui donne les ondes entrantes, qui donne les ondes sortantes en fonction des ondes entrantes, eh bien, vont être des coefficients qui correspondent à la même fréquence. Nous allons voir quand on traite l'amplificateur que cette matrice de diffusion qui caractérise toujours un processus linéaire va maintenant faire intervenir différentes fréquences. Ça va être ça le changement. Mais pour l'instant, je reste dans... Oui ? Ici.
Donc ici, si j'ai RA égale ZA, normalement j'ai réalisé une adaptation d'impédance.
Ça correspond au cas où le facteur de qualité de la résonance est 1. Ah non, alors l'adaptation d'impédance, l'adaptation d'impédance ici, c'est un concept un peu délicat quand on a les ondes qui arrivent et qui repartent sont caractérisées par cette impédance R qui est réelle. L'impédance du résonateur, elle est imaginaire. Donc il ne peut pas y avoir véritablement d'adaptation d'impédance au sens ordinaire. Il peut y avoir ce qui s'appelle le couplage critique. Quand ce produit-là est 1, on dit que bon, le couplage entre le résonateur et la ligne est critique. Ça correspond à un facteur de Kali. C'est juste la limite entre le système suramorti et sous-amorti. Ou en quelque sorte, on peut dire que le temps de résidence du photon correspond uniquement à une seule oscillation. L'adaptation d'impédance au sens, auquel tu penses, ça va intervenir lorsque je vais considérer une boîte avec deux lignes. Donc ça va juste arriver là dans deux trois transparents. Comment passer de ces A, alors ces amplitudes d'ondes A ont une dimension qui est égale à la racine d'une puissance lorsqu'elles sont fonction du temps. Lorsque je prends leur transformée de Fourier, en fait, la dimension de ces ondes, ça va être la racine carrée d'une action. Et là, encore plus parlant, je dirais que l'amplitude des ondes, eh bien, il y a l'amplitude des photons, qui en fait correspond simplement à l'amplitude des ondes divisée par ce facteur qui fait intervenir la racine carrée de l'énergie du photon. Ces opérateurs A et A croix, ici, qui vont être équivalents pour la ligne de transmission aux opérateurs A croix de chaque mode du circuit. Si vous voulez, ces opérateurs A, ici, correspondent aux opérateurs de création et d'annihilation des ondes progressives, alors qu'au début, on avait parlé des opérateurs d'annihilation et de création d'ondes stationnaires. C'est le fait que ces ondes soient progressives qui nous donne ce facteur de commutation en fonction delta, ici, singulier. Encore peut-être plus parlant que, disons, ces ondes de photons, enfin ces amplitudes de photons, une quantité plus physique peut-être, c'est la densité spectrale de ces ondes. C'est-à-dire que c'est la valeur moyenne du produit de ces ondes à plusieurs fréquences, qui fait aussi intervenir une fonction delta. En fait, on a un résultat non nul lorsque la fréquence oméga 2 est égale à moins la fréquence oméga 1, c'est-à-dire que l'amplitude ici est l'amplitude conjuguée de celle-ci. Et cette densité spectrale est très physique puisque sa dimension, c'est une énergie. Ça représente l'énergie d'un mode d'onde progressive, c'est l'énergie, cette densité spectrale, c'est l'énergie d'un mode d'onde progressive à la fréquence oméga. Et donc, lorsque la ligne est en équilibre thermique, les ondes entrantes vont satisfaire au théorème d'équipartition. Et donc, la densité spectrale à fréquence oméga, ici, eh bien, il sera égal à kT sur 2. Kt sur 2, ça peut se comprendre. En fait, il y a à chaque fréquence absolue, oméga, il y a à la fois une partie positive et une partie négative. Lorsque j'ajoute la densité spectrale à fréquence positive et à fréquence négative, j'ai bien kt, et donc je retrouve bien, le fameux théorème qui dit qu'à l'équilibre thermodynamique, je dois avoir kt par mode. Donc tout ça est parfaitement... tout à fait logique. La densité spectrale des ondes progressives entrantes est telle que, eh bien, par mode, je dois avoir une énergie égale à kT. Si je traduis maintenant en termes de nombre de photons, eh bien, je vais avoir un résultat tout à fait compréhensible. Le nombre, de photons par mode, dans le régime classique, ça va être kt sur h bar oméga, donc Donc c'est bien le nombre de... Oui. Donc j'introduis la densité spectrale ici de... Ah oui, j'ai fait une erreur ici de... Il devrait y avoir oméga 1. Oui, merci beaucoup. Il y a une erreur typographique là. Il devrait y avoir oméga 1. Oui, oui, ça manque. Ici c'est la même erreur. Il devrait y avoir oméga 1 dans cette formule. Donc, voilà un peu comment on peut interpréter la densité spectrale des photons. C'est très simple, hein. C'est encore plus simple que pour l'énergie. Finalement, cette densité spectrale, elle représente le nombre de photons par unité de bande passante et par unité de temps qui finalement traverse une section de la ligne de transmission. C'est donc extrêmement physique, hein. Il y a, par exemple, ici, quand on est dans la limite quantique et quand ce nombre finalement vaut un demi, eh bien on peut se représenter le signal entrant correspondant aux fluctuations de point zéro comme des espèces de demi-photons qui, par unité de temps et par unité de fréquence qui arrivent dans le circuit. Donc c'est extrêmement pratique ces images parce qu'on peut se représenter le circuit comme sous forme particulière finalement. On peut le voir soumis à un flux de particules. La fréquence du photon, c'est un peu la couleur de ces ondes. Et donc on a un certain spectre de fréquence. Et finalement, l'idée de compter le nombre de photons qui arrivent par unité de temps et par unité de fréquence, nous donne une quantité sans dimension. Donc le flux de photons, c'est finalement, par unité de fréquence, c'est un nombre. Donc une remarque, là, dans toutes ces leçons, j'utilise cette densité spectrale avec la fréquence entre crochets. Les crochets signifient que l'argument peut être soit positif, soit négatif. Donc, il y a en fait une densité spectrale mesurée par un analyseur de spectre. C'est toujours, comme l'indique cette formule, c'est un repliement. On mesure, on fait la somme de ce qui se passe aux fréquences positives, aux fréquences négatives. On ne peut pas, avec un analyseur de spectre standard, séparer les fréquences positives ou négatives. On peut le faire dans d'autres types d'expériences, mais la densité spectrale de l'ingénieur pour une quantité X, ça va être en fait la somme de ces deux densités spectrales, je dirais, du physicien ici qui distingue les fréquences positives des fréquences négatives. Oui. On peut voir, une fois qu'on décompose le signal entrant en mode discret, même une ligne infinie peut être, les excitations de cette ligne semi-infinie peuvent être décomposées en un nombre, une infinité discrète de mode, effectivement, on peut voir cette densité spectrale comme finalement l'occupation, le taux d'occupation de chaque mode. C'est une autre façon de voir la chose. Plutôt que de voir finalement cette densité spectrale comme un flux, on peut la voir aussi comme un taux d'occupation de chaque mode. Mais les modes du signal entrant sont des modes d'ondes progressives. Et donc la notion d'onde progressive est plus délicate que la notion d'onde stationnaire. Mais si vous êtes intéressé par cette question, en fait, dans le cours de 2008, j'ai passé toute une leçon à développer cette idée en détail. D'une manière générale, quand on fait les calculs de la matrice S pour un nombre de modes arbitraires, eh bien, on va trouver toujours la même structure. On va trouver finalement une formule qui est exactement de la forme du coefficient de réflexion d'une ligne de transmission couplée à une impédance terminale. On a toujours ce facteur de la différence entre les impédances sur la somme des impédances. C'est finalement ce que cette formule nous indique. Comme le système est matriciel, la formule ressemble pas tout à fait à celle-ci, puisque ici, le dénominateur est remplacé par cette matrice inverse, mais vous reconnaissez finalement la combinaison entre l'admittance du circuit et l'impédance de la ligne. Voilà la recette, finalement. Ce dont il faut se rappeler, c'est que si vous connaissez l'hamiltonien de votre circuit, vous allez être capable de calculer cette matrice des admittances et combiner avec la matrice des impédances de la ligne, eh bien, vous allez pouvoir calculer la matrice de diffusion. C'est finalement ça le traitement entrée-sortie, c'est finalement une simple combinaison de matrices. La matrice S que vous obtenez a toujours une forme très particulière. Quand le système est purement passif, cette matrice est unitaire. On va voir que d'une manière générale, quand le système est non linéaire et actif, on va voir que cette matrice va être symplectique. Ça va généraliser la notion d'unitarité. D'une manière générale, cette matrice conserve toujours l'information. C'est ce qui va donner ses propriétés. Pour répondre à ta question, Landry, voilà la question d'adaptation d'impédance. Alors, voilà un circuit avec deux ports. Donc, c'est un peu plus compliqué qu'un circuit LC ordinaire. Et voilà ce que donne le résultat de la matrice S. J'ai simplement fait les calculs. C'est très simple. On prend l'admittance de ce circuit vu des deux ports. Et par la recette que j'ai indiquée précédemment, on peut calculer la matrice S. Et cette matrice S, finalement, va faire intervenir deux gamma, puisqu'il y a deux lignes, il va y avoir deux temps de résidence. Le premier, c'est finalement le temps de résidence d'un photon qui arriverait par la ligne A et qui repartirait. Gamma A, c'est plutôt l'inverse de ce temps de résidence. Et ici, j'introduis ces grands gamma qui sont le petit gamma divisé par 2, qui sont plus commodes dans ces formules. Mais l'histoire est quand même assez simple dans le fond. Un photon qui arrive dans cette boîte peut repartir de deux façons possibles. Il peut repartir soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Et donc ces deux processus s'ajoutent dans la matrice. Dans la matrice S. C'est pour ça qu'elle fait intervenir ces deux gamma. Alors, vous remarquerez qu'il y a une interférence intéressante, et ça va correspondre à l'adaptation d'impédance que tu soulevais tout à l'heure. Donc, l'adaptation d'impédance entre, finalement, cette ligne et celle-là, c'est-à-dire le fait qu'un photon qui arrive ici va entièrement passer de la ligne A à la ligne B sans être réfléchi. Donc ça va correspondre au cas où la réflexion est zéro. Vu dans cette image, c'est un processus d'interférence. C'est un processus d'interférence. C'est là où l'aspect, l'image particulière est prise en défaut, puisque si on imagine le photon comme une particule au sens strict, eh bien, elle arriverait dans cette boîte et puis finalement, il y aurait des photons qui repartiraient à gauche, des photons qui repartiraient à droite. On ne devrait jamais avoir un coefficient de réflexion ici qui est nul quand les photons ont le droit d'entrer. En fait, si. Ici, il y a une interférence entre le processus de diffusion vers l'avant et vers l'arrière qui nous donne ce facteur moins ici. Donc quand les taux gamma A et gamma B sont rigoureusement égaux, ça correspond au Fabry-Perot symétrique, eh bien, les photons sont, parfaitement transmis. Et ça, cette condition a lieu quand ce circuit, finalement, adapte l'impédance de la ligne B à la ligne A. Le terme non diagonal dans la matrice S, lui, il est beaucoup plus simple à comprendre. Donc, dans cette image particulière, il fonctionne très bien. Pour qu'un, pour qu'un photon ici soit transmis de A à B, eh bien, il faut qu'il soit, absorbé et puis réémis. Ça correspond à ce produit. Les facteurs delta, ces termes delta oméga sont les écarts à la résonance et donc indiquent comment cette matrice S se modifie lorsque la fréquence des ondes entrantes et des ondes sortantes n'est plus résonante avec le circuit. Je m'aperçois que ce pointeur laser est un peu en train de mourir. Il y en a un autre de rechange. Voilà. Alors, on va pouvoir maintenant discuter le bruit rajouté. Donc, ce processus de diffusion. Du point de vue des ondes vertes ici qui sont diffusées par le circuit, ne va pas se faire sans bruit. Pourquoi ? Eh bien, si on a une boîte qui a comme ça deux entrées et deux sorties, et qu'on utilise finalement cette sortie secondaire comme un processus d'atténuation, donc je considère finalement cette boîte comme un atténuateur qui fonctionne en réflexion. Je me sers de cette boîte de la façon suivante. Si j'envoie cette onde verte ici, eh bien, elle va être réfléchie, mais avec perte, parce qu'une partie de l'onde ici peut être transmise dans le canal B. Donc le canal B me sert à atténuer le canal A. Eh bien, vous voyez un peu ici le théorème fluctuation-dissipation raconté sous forme de diffusion, puisque l'ouverture de ce canal B ici pour permettre à l'onde A de s'atténuer, eh bien introduit en retour la possibilité que le bruit rentre par B. Donc finalement, si on atténue avec un coefficient d'atténuation qui est donné par le carré finalement de ce coefficient de réflexion ici, de ce terme en haut à gauche de la matrice S, eh bien on va rajouter du bruit. Donc il va y avoir un nombre de photons ajoutés qui va être le nombre de photons qui rentrent par le canal B fois le rapport entre ce coefficient de réflexion et ce coefficient de transmission. Et vous voyez que le nombre de photons rajoutés sera toujours différent de 1, à moins que, ce coefficient de réflexion soit strictement unité, c'est-à-dire que eh bien, le système soit non absorbé. Donc c'est vraiment le théorème fluctuation-dissipation. Si vous dissipez, eh bien, vous allez être soumis au bruit. Et vous allez voir que quand cette boîte va fonctionner en amplificateur, eh bien, elle ne va pas échapper du tout à ce processus. Et on peut voir le théorème de Caves de cette façon. Puisque pour amplifier, il faut jeter les photons images, il faut introduire un canal dissipatif, et bien le bruit de l'amplificateur, c'est les ondes qui rentrent par ce canal de dissipation. Voilà, finalement, le fonctionnement le bruit de l'amplificateur va pouvoir se comprendre exactement comme le bruit de l'atténuateur. Oui ? Ça ne va jamais être négatif, cette expression, puisque ce coefficient d'atténuation Donc il est toujours inférieur à 1, et là on l'élève, on prend son inverse. Donc finalement le nombre de photons ajoutés va bien être positif ici. Oui, cette quantité SA1, elle est toujours inférieure ou égale à 1, donc son inverse va être supérieur à 1, et donc c'est bien positif. Non, ça marche bien. Dans le cas, dans l'amplification, on va avoir l'opposé de cette relation. En fait, on va échanger, c'est très simple, on verra que dans l'amplificateur, les numérateurs et les dénominateurs de ces expressions vont s'inverser, et ça va être dû être au fait que finalement ce canal B ici va être remplacé par un canal conjugué. Cette inversion de population de l'amplificateur va correspondre à une espèce de résistance négative ici pour ce canal B, et donc ça va transformer tous les gamma B ici en moins gamma B, et donc finalement très formellement on peut comprendre un amplificateur comme un atténuateur dans lequel la résistance qui atténue est devenue négative. Je vois que j'ai dépassé le temps imparti. Je vais juste discuter très très brièvement de la façon dont on caractérise la non-linéarité, et je reporterai la fin de cette discussion à la leçon prochaine. Donc, très brièvement, il faut combiner l'approche, hors équilibre de la matrice de diffusion, de ce traitement entrée-sortie, avec un traitement de l'inductance non linéaire qui est fourni en fait par les jonctions Josephson à l'intérieur du circuit. Alors, une façon de comprendre comment est exploitée la jonction Josephson. La jonction Josephson peut être comprise comme une inductance non linéaire de la façon suivante. Dans une inductance linéaire, la tension est donnée simplement par la dérivée du courant par rapport à la tension fois un coefficient qui est indépendant du courant. Ici, en fait, une façon de comprendre la jonction non linéaire, c'est à travers cette relation. Vous voyez que la tension aux bornes de la jonction est reliée à la dérivée du courant, mais par un terme qui est un peu un terme de nature relativiste, on va dire, qui fait intervenir justement ce terme qui dépend du courant. C'est très important ici de voir que finalement, l'inductance de la jonction Josephson dépend instantanément du courant, donc pour une jonction idéale. L'énergie stockée dans la jonction va être une fonction cosinusoïdale du courant, finalement. Alors, cette non-linéarité de la jonction Josephson, ça va se traduire en une anharmonicité. Si on prend l'élément Josephson et qu'on le fait résonner avec une capacité, eh bien, on va avoir un oscillateur qui est anharmonique, c'est-à-dire que sa fréquence va dépendre de son énergie. Et là, j'ai tracé la fréquence de cet oscillateur en fonction de l'énergie contenue dans l'oscillateur. Et cette fréquence décroît et puis s'annule brutalement lorsque l'énergie devient égale à deux fois cette énergie, l'énergie Josephson. Donc cette dépendance de la fréquence avec l'énergie donne lieu à deux types de paramètres. Donc il y a deux façons de se représenter la non-linéarité. Une façon purement classique qui existe même en absence de mécanique quantique, c'est finalement la pente, une espèce de caractérisation de cette pente. Donc cette caractérisation, c'est donc la dérivée de la fréquence par rapport à l'énergie, fois finalement un autre rapport qui est inverse, qui est l'énergie maximum qu'on peut mettre dans cet oscillateur, qui est donc relié à l'énergie Josephson, divisé par cette fréquence initiale. Et donc, avec cette métrique, en quelque sorte, on voit que la jonction Josephson est un composant très, très non linéaire, puisque ce paramètre, disons, classique d'anharmonicité vaut un quart pour une jonction pure, pour un élément pur Josephson en parallèle avec une capacité. Donc, elle est d'ordre 1. On peut dire que la jonction Josephson est maximalement non linéaire. Il y a une autre non-linéarité, qui est une non-linéarité quantique, qui compare cette pente, ici, à un autre facteur sans dimension, qui est justement le facteur de qualité de ce circuit. Donc, dans cette non-linéarité classique, nous dit en quelque sorte... Lorsqu'on augmente le nombre de photons, de combien, enfin en proportion, de combien quel est le shift de fréquence on obtiendra par photon. Ça, c'est cette non-linéarité quantique qui est une autre représentation de l'anharmonicité du circuit et qui, cette autre métrique, fait intervenir la dissipation. Bon, je vais sauter ça. Juste pour conclure, lorsqu'on fait le calcul de ce coefficient non linéaire dans un système particulièrement simple, justement dans ce circuit à trois modes, il y a quatre branches dans ce circuit, mais il y a un mode qui n'est pas couplé aux jonctions Josephson. Donc, on a trois types de courants qui vont exister dans ce circuit. Le mode X, qui correspond aux flèches rouges, le mode Y, qui correspond aux flèches vertes, et le mode Z, qui correspond aux flèches violettes. Eh bien, on voit que pour des composants assez réalistes, une jonction de 10 microampères et puis une fréquence de travail de quelques gigahertz, eh bien, l'impédance du circuit, du mode, sera... de l'ordre de l'ohm. Et pour ces valeurs, eh bien, on voit que ce coefficient de mélange, finalement, correspond au mégahertz. Donc, en termes de photons, le taux de conversion, finalement, la rapidité à laquelle un photon micro-ondes va se convertir en deux photons, c'est dans ce type de circuit Josephson, c'est des constantes qui sont de l'ordre du mégahertz. Et donc dans la leçon prochaine, je vais expliquer comment utiliser ce coefficient pour arriver à faire des amplificateurs qui vont quand même avoir une bande passante très nettement supérieure au mégahertz et avec des coefficients d'amplification raisonnables qui sont de l'ordre de 100, ce qui est nécessaire pour effectuer des mesures pratiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention.